archives de l'écologie. François Bernard.
Merci de nous accueillir à l'écoute des archives de l'écologie. Alors que le président américain poursuit sa guerre, il rêve probablement encore de recevoir le très convoité prix Nobel de la paix. Il a eu du mal à convaincre le jury en 2025. Il est probable que la situation ne lui sera pas plus favorable en 2026. Il faudrait que Donald Trump écoute notre émission aujourd'hui pour entendre ce qui peut motiver le jury du Nobel à décerner le fameux prix à une personnalité méritante. Le prix Nobel de la paix récompense, selon sa définition, je cite, « la personnalité ou la communauté ayant le plus ou le mieux contribué au rapprochement des peuples, à la suppression ou à la réduction des armées permanentes, à la réunion et la propagation des progrès pour la paix ». Ce sont précisément les volontés définies par le testament d'Alfred Nobel, le créateur de ce prix. Notre archive aujourd'hui date de 2004, année où le prix Nobel de la paix a été décerné à Wangari Mutamata, une biologiste kényane, militante politique et écologiste. Un reportage réalisé pour Radio France Internationale. Je vous laisse en compagnie de cette femme d'exception et on se retrouve dans 20 minutes pour poursuivre cette émission.
Fréquence Terre, Arnaud.
Bonjour à tous. Mi-décembre à Oslo, le prix Nobel de la paix 2004 a été attribué pour la première fois de son histoire à une militante écologiste, Wangari Maathai. Une femme exceptionnelle dont le parcours a toujours témoigné d'un engagement total pour préserver la nature à partir d'un combat mené dans son pays, le Kenya. Première réaction de Wangari Maathai à l'annonce de son prix Nobel chez elle à Nairobi en octobre dernier.
Je suis vraiment très très fière et à mes yeux il n'y a pas que moi qu'on récompense. J'ai le sentiment que le monde récompense en fait notre travail. À travers moi c'est l'Afrique et c'est la femme africaine qu'on récompense. On récompense aussi les efforts que ce continent fait pour s'en sortir en dépit de tous les problèmes auxquels il est confronté.
Une reconnaissance du monde pour un combat et pour une cause qui récompense une femme, une africaine, une militante de la démocratie et une écologiste qui a mis toute son énergie au service de la nature en plantant des arbres pour résister à l'érosion de la terre, de l'eau et de l'air avec la complicité des populations rurales et des femmes du Kenya. Une lutte parfois dure qui lui ont valu des années difficiles durant lesquelles elle a résisté autant comme citoyenne dans le cadre de son organisation écologiste, le Green Belt Movement, en tant que ministre adjoint de l'Environnement du Kenya, où elle avait déjà reçu pour service rendu à la nation le titre de sage à la lance brûlante. Une femme dont l'engagement est intimement lié à la nature de son enfance, le Nyeri, Wangari Maathai.
Nyeri, c'est une des plus belles régions de ce pays. C'est montagneux, il y a des vallées très profondes, il y a de la forêt. C'est une région qui se trouve entre la montagne la plus haute de mon pays, le mont Kenya, qui est une montagne sacrée pour les miens, et les monts Adabea et Nyadara, qui étaient aussi des montagnes sacrées pour mon peuple. Donc mon enfance a été bercée de toute cette beauté de l'environnement qui m'entourait. Et pour moi, ce n'est pas une coïncidence si j'étais attirée par la beauté et la verdure de la campagne, que j'ai voulu entreprendre la reforestation, parce qu'il y avait eu énormément de déforestation. Les années que j'ai passées dans mon enfance à Nyeri ont été pour moi les meilleures années dans cet environnement magnifique. Je vivais près d'un cours d'eau et j'allais chercher de l'eau directement dans cette rivière pour la boire. Je la ramenais à la maison et on l'utilisait pour la cuisine. Dans cette rivière, il y avait des nénuphars, ces plantes aux feuilles très larges, et je m'amusais à me cacher sous ces feuilles. Je jouais avec les œufs de crapaud. C'était un cours d'eau très tranquille et on voyait les œufs de crapaud flotter. Ces souvenirs merveilleux de ce cours d'eau m'ont donné l'énergie d'essayer de redonner vie à cette rivière parce que, à peine 10 ans plus tard, ce cours d'eau s'est asséché à cause de la déforestation et de l'érosion des sols. C'est ce cours d'eau de mon enfance que je vois encore aujourd'hui et auquel je souhaite redonner vie depuis mon engagement dans la préservation de l'environnement. Je n'arrêterai pas de planter des arbres pour tenter de renverser cette destruction de la couche végétale tant que ce cours d'eau ne sera pas revenu.
Issus d'un milieu progressiste de paysans engagés dans la lutte pour la préservation de leur peuple, les Kibuyu, les parents de Wangori Maathai vont lui permettre d'aller à l'école primaire dans la région. Mais elle devra, pour continuer, poursuivre ses études secondaires, aller au couvent Loreto, une école de filles de Limaru, au Kenya.
Dans l'école où j'étais, il y avait une bonne sœur qui m'a mise sur la voie des sciences. C'était une prof de sciences. Elle m'aimait bien parce que j'étais une bonne élève dans sa matière. J'allais partout avec elle. Et elle m'a encouragée à poursuivre mes études universitaires dans le domaine des sciences. Et je pense que grâce au fait que j'ai suivi cette carrière scientifique, spécialement la biologie, c'était très facile pour moi dans les années qui ont suivi d'apprécier ce dont parlaient les environnementalistes. Donc aujourd'hui, quand on parle de la nécessité de préserver la diversité biologique, de la nécessité de protéger les semences, de la nécessité de protéger les paysans des monopoles des compagnies multinationales, de prévenir l'érosion des sols, tout ceci est fondamental pour les biologistes et les environnementalistes. Donc le fait d'avoir pris la voie des sciences et d'y avoir été encouragé par les professeurs grâce à l'enfance que j'avais eue, tout ceci m'a façonné. J'ai toujours pensé que ces professeurs de primaire et surtout du secondaire ont tracé ma destinée.
Wangori Maathai va devenir la première femme d'Afrique de l'Ouest à obtenir un baccalauréat en biologie. Et après de nombreuses années d'études supérieures, elle deviendra pendant plus de 15 ans enseignante à l'université en anatomie expérimentale. En 1977, elle s'engage dans la lutte contre la discrimination des femmes et milite au Conseil national des femmes. Pour finalement quitter l'université en 1992 pour se rapprocher du peuple et mener totalement son combat.
Le fait de m'engager dans le Conseil national des femmes m'a fait prendre conscience de tous les problèmes auxquels les femmes paysannes étaient confrontées, parce que certaines des femmes du Conseil national étaient des femmes des zones rurales. C'est là que j'ai commencé à réfléchir sur ce que je pouvais faire pour aider les femmes des zones rurales. Ce sont en grande partie ces réflexions qui m'ont amené à avoir cette idée que nous pourrions planter des arbres avec ces femmes rurales pour leur donner ce dont elles avaient besoin, c'est-à-dire une source d'énergie qui vient surtout du bois de chauffe, de la nourriture, parce que beaucoup d'enfants souffraient de malnutrition, et puis on s'est rendu compte qu'elles n'avaient pas assez de légumes verts ni de fruits. Nous avions aussi besoin d'enseigner à ces femmes des techniques agricoles qui leur permettraient de récolter assez de nourriture, ce que l'on appelle maintenant des cultures vivrières familiales. Donc toutes ces questions m'ont attirée dans le Forum des femmes. Et pendant tout le temps de ces séminaires, il fallait les aider, les encourager, les former, leur donner des informations. Et tout ceci a contribué à leur donner des responsabilités, spécialement les femmes qui ont travaillé au sein du mouvement de la ceinture verte. D'un autre côté, j'étais l'une des seules femmes qui était à l'université. J'ai été la première à obtenir un diplôme de troisième cycle dans cette partie de l'Afrique. Et en plus dans le domaine des sciences. Donc même si parfois le fait d'être la première a des avantages, il y a aussi beaucoup d'inconvénients. Mais j'étais en train d'ouvrir de nouvelles voies. Et parce que j'étais une jeune femme, je suis devenue une source d'inspiration pour beaucoup de femmes. Quand nous avons commencé dans le Conseil national des femmes, très peu de gens mesuraient l'importance de notre action, la puissance de ces femmes organisées, même pour planter des arbres. très peu de gens mesuraient l'impact que pourraient avoir ces actions de planter des arbres pour le pays. Donc en fait, personne ne faisait vraiment attention à nous, en particulier les politiques. Mais au milieu des années 80, il est apparu clairement que nous étions à la tête d'un mouvement très fort, soutenu par des femmes. Et dans le jeu des politiques, spécialement dans un système dictatorial répressif, les politiques et le parti au pouvoir n'aiment pas voir des gens qui sont organisés, parce qu'ils pensent toujours que ces organisations peuvent être utilisées contre leurs intérêts. Et c'est à partir de ce moment-là que nous avons commencé à être perçus comme une organisation négative, subversive. Parce que nous ne servions pas le parti au pouvoir ou tel politicien, nous étions indépendants. Nous ne travaillions pas pour une personne en particulier, mais pour un bien commun.
En 1989,
nous nous sommes confrontés directement au parti au pouvoir qui a essayé de s'approprier un très grand parc situé au centre de la ville de Nairobi. C'était à l'époque de la toute-puissance du parti au pouvoir, à un moment où personne ne s'opposait au pouvoir. Et lorsque nous nous y sommes confrontés, beaucoup ont été surpris et le parti nous a immédiatement taxés d'organisation subversive. Et certains ont demandé à ce que notre organisation soit interdite. Mais je crois qu'il est clair aujourd'hui qu'à ce moment-là, ils ont mal interprété notre mission, nos objectifs. Nos objectifs étaient de protéger l'environnement, de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'abus de pouvoir, que n'importe quel individu, qu'il soit du parti ou du gouvernement, ne puisse pas s'approprier ou détruire des terres qui sont des propriétés publiques, comme les forêts.
Ce fut alors des années difficiles, douloureuses, emprisonnées, harcelées, calomniées par le régime autoritaire de l'ancien président Daniel Arap Moi. Wangari Maathai résiste, persiste et signe.
It is my personality that I act out what I believe.
C'est ma personnalité d'agir en accord avec mes convictions. Je ne devrais pas, mais je suis comme ça. Je suis peut-être idéaliste, mais si je crois en quelque chose, j'essaye de faire en sorte que cela se réalise. J'ai rejoint le mouvement environnemental au début des années 70, lorsque ce mouvement commençait à prendre de l'ampleur. J'ai milité dans ce mouvement pendant plus de 20 ans. Donc je connaissais très bien les causes soutenues partout dans le monde par les environnementalistes. Je savais que j'étais en avance sur mon temps, en avance sur ma communauté, sur ma société. J'étais déjà en train d'établir le programme de ce que devaient être les préoccupations environnementales. Donc je savais qu'il n'y aurait pas beaucoup de gens qui comprendraient et qui, encore moins, apprécieraient ce que j'avais l'intention de faire. Je savais que j'allais me heurter à des résistances. J'ai eu des résistances au niveau de ma propre famille, à l'université, partout où j'allais. Je savais que c'était parce que j'étais en avance sur mon temps. Je n'avais pas peur, je ne cherchais pas les problèmes, mais je savais que j'avais raison. Donc je ne regrette pas une seule seconde les souffrances, les punitions et les sacrifices que j'ai dû faire tout au long de ma vie. Je suis plutôt reconnaissante parce que j'ai la chance d'avoir vécu assez longtemps pour que les gens disent aujourd'hui « elle avait raison ».
Fréquence Terre, Arnaud Jour.
Autre récompense du combat écologiste de l'année 2004, le prix Nobel alternatif. Un prix qui n'a pas la dimension d'un prix Nobel de la paix, qui demeure sans conteste la plus prestigieuse reconnaissance mondiale, dont vient d'être gratifiée la grande dame du Kenya, Wangari Maathai, que nous venons d'entendre. Un prix Nobel donc alternatif décerné par le Parlement suédois à Oslo, traditionnellement la veille de la remise du véritable Nobel, créé pour mémoire par M. Nobel, Nobel, l'inventeur de la dynamite, alors que le Nobel alternatif, pour la petite histoire, vient de l'initiative en 1980 d'un philatéliste, Jacob von Weckl, membre du Parlement européen, qui a fondé ce prix avec des fonds obtenus par la vente d'une collection de timbres. Un prix décerné tous les ans à un homme dont la pensée ou l'action a éclairé notre planète de sa lumière. Un prix décerné cette année à Raoul Montenegro, un professeur de l'université de Cordoba en Argentine qui se définit comme un activiste écologiste.
Tout a commencé comme ça commence avec la plupart des gens. C'est-à-dire de voir qu'il y a des choses qui sont vivantes et des choses qui disparaissent. Ça, c'est le premier contact. Mais je pense, tu sais, c'était à l'année 1971. J'avais reçu le prix à la recherche scientifique et j'ai décidé pas choisir d'aller en Europe ou aux États-Unis. Donc, je suis allé dans le nord-est du Brésil, dans la Caatinga. Et donc, je suis parti comme un écologiste, vraiment, je pense, comme un académicien. Et je suis retourné comme un activiste académicien. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que tout le monde apprend à lire des phrases. Mais normalement, on n'apprend pas à lire la nature ou à lire la société. Et je pense que j'ai trouvé mes meilleurs professeurs de société et de nature. La seule chose étrange, c'est que ce n'étaient pas des professeurs avec des diplômes. C'était des professeurs avec de la vie dans leur dos. Je pense que le grand problème que peut-être tu trouves aujourd'hui, c'est que la plupart des gens, ils peuvent lire un livre, mais ils ne peuvent pas lire la nature, ils ne peuvent pas lire la société. Normalement, je travaille où sont mes racines. Je travaille à Cordoba, je travaille en Argentine. Je le fais aussi à Guatemala, quand on a stoppé une centrale nucléaire. Mais toujours, tu travailles avec un très, très, très grand contact avec tes racines. Et moi, je pense que la place où tu es, c'est le monde. Et ça, c'est une chose importante. Le monde, ce n'est pas une chose différente à la place où tu es. Donc, je pense que cette sensibilité que tu as sur place, c'est aussi une sensibilité pour entendre quelles sont les choses qui sont en train de se passer en Afrique, à l'Australie ou même dans le sud de la Chine. L'autre chose importante, c'est de sortir de l'individu. Ça aussi, c'est une sorte de nouvelle lecture. Et j'ai appris qu'il faut travailler avec les gens et que la vérité, elle repose sur l'opinion de beaucoup de gens, pas seulement sur ton opinion. Ça, c'est aussi une révolution importante. Donc, c'est plus social, la question. C'est pas tellement individuel. On est en train de travailler avec Tekoaima et Tekoakapivate. Ce sont deux populations indigènes qui ont pris contact avec les populations blanches en 1995. Et la chose tragique et optimiste en même temps. Tragique parce qu'il y a une entreprise, Mokona Forestal, société anonyme, qui est en train de sortir les arbres, d'extraire les arbres qu'ils utilisent comme des plantes médicinales. La chose positive, c'est qu'évidemment, il y a une lutte, mais que les Blancs, les sociétés qui sont dehors des populations indigènes, ils peuvent apprendre une chose très importante, que la seule façon de pouvoir survivre, c'est d'avoir une balance entre la surface dédiée à écosystèmes naturels, soit forêt, soit par exemple, et de l'autre côté, la production, l'agriculture. La seule façon de pouvoir survivre, c'est de penser avant tout que le pays, le terroir, il doit avoir cette balance. Vraiment, l'internationalisation, la globalisation, ce n'est pas un rêve, c'est un cauchemar. Ce n'est pas une vérité. Donc, il faut retourner et comprendre que la seule façon, c'est pour chaque hectare que tu es en train de dédier à l'agriculture, tu dois avoir un hectare dédié aux écosystèmes naturels. Parce que les écosystèmes naturels, c'est la seule façon de produire du sol, d'avoir une certaine balance de l'eau douce et surtout avoir cette stabilité climatique. Cette petite définition de balance, je pense qu'elle est à la base de ce qu'on devrait faire. Ce qu'on attend, c'est que les grands leaders qui sont en train de penser à tellement de grandes idées ils puissent avoir le temps et l'intelligence, pas tellement facile à une personne comme George Bush, mais même dans ce cas, d'arriver à comprendre ces petites choses de la balance entre nature et entre production.
Sur ces mots de Raoul Monténégro et sur ces paroles de Wangari Maathai collectées par Véronique Guémard au Kenya, se termine ce Fréquence Terre sur les écologistes nobélisés de l'année 2004. Simon Decreuse, Cyril Etienne, Mélanie Crozier et Arnaud Jouve vous saluent et vous donnent rendez-vous la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.
Voilà, reportage produit en janvier 2004. Raoul Monténégro a aujourd'hui 77 ans. Il reste un militant actif et une voix écoutée de la cause écologique. Son prix Nobel alternatif n'a pas le même prestige que l'officiel, mais il a récompensé un engagement politique et écologiste comme la communauté humaine en a bien besoin. Wangari Maathai Mutha, prix Nobel 2004, elle est décédée le 25 septembre 2011 à l'hôpital de Nairobi des suites d'un cancer. Elle avait 71 ans et elle est restée jusqu'au bout une amie inconditionnelle des arbres. Pour respecter sa volonté qu'un arbre ne soit pas coupé pour fabriquer son cercueil, la famille en a fait fabriquer un en bambou et en fibre de jacinthe. Le jour de la cérémonie, un arbre a été planté dans un parc de Nairobi que Wangari Maathai a sauvé de la destruction en mettant en échec un projet de gratte-ciel que le régime voulait construire à cet endroit. Wangari Maathai Mutha, Raoul Monténégro, deux personnalités récompensées pour leur engagement en faveur de la paix dont Donald Trump pourrait bien s'inspirer s'il veut un jour décrocher ce Nobel qui lui ferait tant plaisir. C'est tout pour les archives de l'écologie de ce samedi. Merci de votre fidélité sur Alternante, en direct ou en podcast sur le site alternantefm.fr. Et c'est la tradition, on finit chaque samedi cette émission en chanson. Et pour rendre hommage à Wangari Maathai Mutha, invitons une autre grande dame de la culture africaine, chanteuse, celle-là qui a créé cette chanson connue dans le monde entier. Elle a pour titre « Pata Pata » et son interprète Myriam Akeba. À la semaine prochaine.